La semaine dernière, Nicolas nous a parlé d'une facette importante de la foi. Il nous a parlé de la parole de la foi. Le titre de son message, c'était « Confesser sans fléchir ». Et ce matin, je voudrais vous présenter une autre facette aussi importante de la foi qui touche au sujet du combat de la foi. Et nous allons faire une première lecture ensemble dans le livre de Néhémie. Après les deux livres des Chroniques, vous trouvez le livre d'Esdras et ensuite vous trouvez le livre de Néhémie. On va lire tout le chapitre 4 ensemble. Si vous avez une petite feuille, quelque chose, gardez la marque de cette page parce que ce sera la lecture centrale pour notre méditation ce matin. Livre de Néhémie au chapitre 4. Alors avant de lire ces versets, je fais juste un petit rappel du contexte. Le livre de Néhémie, il fait suite directement au livre d'Esdras, il le complète on va dire. Et ces deux livres représentent la reconstruction de la communauté des enfants d'Israël qui avait été dispersée de leur pays. Et on peut dire que le livre de Néhémie particulièrement raconte les événements qui se sont passés, qui se sont déroulés pendant la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et Néhémie, qui était parmi ces Juifs, lui aussi déporté, après avoir reçu le soutien du roi de Perse, eh bien, il va remobiliser le peuple. Et Dieu l'a vraiment conduit et dirigé pour être vraiment le meneur, pour servir justement à la reconstruction de cette muraille de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons lire. À partir du moment où les hommes ont vraiment pris à cœur l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition. On le lit ensemble, Néhémie 4, verset 1er. « Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit « Qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Verset 4 « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Adosiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Verset 9. Nous priâmes notre Dieu et, soulignez-le, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Verset 15, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenait une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. Verset 21, c'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. On pourrait lire, on n'a pas le temps, je vous encourage, si vous l'avez vraiment envie, de relire ces quelques chapitres, même depuis le chapitre premier, même tout le livre de Néhémie, c'est très intéressant. Mais on peut juste regarder au chapitre 6, vous tournez la page, juste le verset 15 qui est un peu la conclusion, parce que si vous lisez, vous verrez qu'il y a eu d'autres oppositions, d'autres freins. Mais c'est bien quand même de voir un petit peu ce qu'il y a écrit dans ce verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Alléluia. Le titre de notre partage ce matin est le suivant. Le soldat de Christ reste sur ses gardes. Le soldat de Christ reste sur ses gardes. Nous sommes tout à fait conscients que nous ne sommes pas engagés pour l'édification d'un bâtiment physique, même si, pour des raisons de commodité, pour des raisons pratiques, il est important aussi d'organiser les lieux de culte et les lieux de rassemblement. Nous sommes engagés, comme l'a rappelé Nicolas, chacun pour notre part, selon les dons que Dieu a mis sur notre vie, nous sommes engagés pour la construction d'un édifice spirituel, l'Église de Jésus-Christ, chacun pour notre part, qui que nous soyons. Notre frère l'a rappelé, cette image du corps est extraordinaire, dont l'apôtre Paul parle et nous montre qu'effectivement il y a des organes totalement différents dans notre corps. Mais chacun pour notre part, nous devons être engagés comme le peuple d'Israël, nous devons prendre à cœur l'œuvre du Seigneur, mais nous ne bâtissons pas des murs physiques, mais nous sommes appelés à édifier cette maison spirituelle, l'Église, le corps de Christ. L'apôtre Pierre dit ceci, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 5. Un autre verset, c'est l'apôtre Paul qui déclare ceci, « Car nous travaillons... » On peut parler de travail pendant les vacances ? Ça va ? Bon, il y en a qui ont dû reprendre. « Nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, je l'ai lu dans la version Semeur. Et sachons-le, cette construction, elle ne se fait pas sans opposition. Il y a un combat spirituel. Parce qu'il y a une guerre spirituelle. Nous allons le rappeler encore ensemble ce matin. Et cela n'est pas dit, rappelé ce matin, pour nous effrayer ou pour nous faire peur. Mais pour que nous soyons parfaitement conscients de ce dans quoi nous sommes engagés. Il y aura prochainement des baptêmes. Et je suis heureux chaque fois que nous partageons avec ceux qui sont nés de nouveau les combats et les luttes qui seront sur leur chemin. Nous devons, parce que la Bible nous l'a enseigné, Jésus lui-même nous a parlé de ses luttes et de ses combats, nous devons être les uns et les autres un soldat de Jésus-Christ, un soldat de Jésus-Christ qui est constamment sur ses gardes. Alors comment cela est-il possible? Et le premier point que je voudrais partager avec vous, eh bien c'est la nécessité de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et j'insisterai sur cette notion de toutes les armes de Dieu. Alors attention, je vais quand même dire quelque chose qui est fondamental, sans quoi tout ce que je pourrais partager avec vous ce matin n'aurait aucun sens. Et d'ailleurs, Nicolas avait anticipé, il l'a dit tout à l'heure, dans cette guerre, ce n'est pas nous qui combattons. Vous l'avez lu avec moi, on le relit au verset 20, Néhémie chapitre 4, verset 20. « Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. » Ce n'est pas nous qui combattons. Sans l'intervention de Dieu, soyons clairs, sans l'intervention de Dieu, nous serions totalement incapables d'être engagés et d'affronter le combat de la foi. Mais dans une parfaite soumission à Christ, et on souligne le parfaite soumission à Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alléluia, parfaite soumission à Christ. Je crois que la base de cet engagement dans le combat de la foi, il est dans ce verset que je vous cite maintenant. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça, c'est la base. Ensuite, résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Soumission à Dieu. Nous sommes en lui, nous sommes avec lui, nous gardons ses commandements, nous le suivons. Vous savez, on a beaucoup partagé ces derniers temps cette notion de la brebis qui est là avec son berger. Pourquoi? Eh bien, le psalmiste dit, je ne crains aucun mal. Bien sûr, parce que je suis avec lui, je suis soumis à lui, j'entends sa voix, il est mon guide, il est celui qui me protège et qui me garde. Sans l'intervention de Dieu, nous serions totalement incapable. C'est notre Dieu qui combat pour nous. Il est écrit ceci, cela a été cité tout à l'heure, « Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. » Alléluia. Colossiens, chapitre 2, verset 14 et le verset 15. Et c'est ce que nous avons rappelé en partageant le pain et le vin. La victoire, elle a été parfaitement accomplie à la croix du calvaire. Ça a été une victoire sur l'ennemi définitive pour tous les temps. Alléluia. La victoire, elle est remportée. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous. Alors j'ai insisté sur cette dimension, pourquoi? Parce que je vais insister aussi sur notre rôle dans l'affaire. Parce qu'on pourrait dire, bien, le combat a été mené, la victoire a été remportée, et bon, à la limite, je me confie en Dieu. Mais si Dieu combat pour nous, il est fondamental, mes frères et sœurs, pour nous d'être bien armés. Parce que nous avons un rôle aussi à jouer, nous devons résister à l'ennemi. On lit ensemble, si vous pouvez garder la page de Néhémie, c'est bien, mais je voudrais lire avec vous dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. On les connaît très bien ces versets, mais il faut qu'on puisse les relire ensemble ce matin. Éphésiens chapitre 6, qui nous parle de l'armure du chrétien, un petit peu cette image que l'apôtre Paul a pris, donc des soldats romains qui lui étaient d'une certaine manière familiers, que ce soit en prison, soit par l'occupation des Romains. Éphésiens chapitre 6, on peut lire à partir du verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Verset 11, Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez, je m'arrête un petit peu, mais vous voyez, revêtez-vous, prenez, ce sont comme des impératifs, c'est notre rôle. Dieu a le sien, Dieu a tout accompli parfaitement, mais nous sommes engagés nous aussi dans ce combat. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, soulignez le « toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. J'insisterai sur la notion de toutes. Au verset 11, il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, et nous le retrouvons au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Et nous le voyons dans Néhémie, on le voit très bien au verset 13, Néhémie au verset 13, on voit qu'il est dit ceci, le peuple par famille, tous, ils avaient leurs épées, ils avaient leurs lances, ils avaient leurs arcs. Et au verset 16, on voyait que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs, et de cuirasse, et nous voyons qu'ils étaient bien armés. Et ça, c'est une nécessité pour l'enfant de Dieu. Nous sommes soldats de Jésus-Christ et nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Que diriez-vous d'un soldat qui est très bien équipé, mais à qui il va manquer une chose? Voilà, il a tout, il a le casque, il a la ceinture, il a l'épée, et il n'a pas le bouclier. Ou alors il a le bouclier, il n'a pas l'épée. Ou alors il a tout, il n'a pas le casque. Que diriez-vous? Et je crois qu'il en va de même pour nous. Nous devons être parfaitement équipés. Nous devons être revêtus de toutes les armes de Dieu. Je le dis parce que c'est vrai que parfois, dans nos échanges, nous voyons que la parole de Dieu est bien comprise et bien utilisée dans certaines situations, mais on voit que peut-être il manque d'assurance du salut qui est représenté par, vous savez, ce casque du salut. Il y a des choses sur lesquelles on peut être, j'allais dire, un peu plus, solide, affermi dans la foi. Mais il est important, pour pouvoir résister à l'ennemi, d'être revêtu de toutes les armes de Dieu. Le combat spirituel, c'est une réalité dans la vie du croyant. Et pour un combat spirituel, il faut des armes spirituelles telles qu'elles ont été énumérées ici, mais nous les utilisons dans un esprit constant de prière. Et ça, c'est fondamental pour le combat de la foi. Nous l'avons lu dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et vous l'avez vu avec moi dans Néhémie, regardez le verset 4, c'est la prière. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Et regardez au verset 9, alors que l'ennemi se ligue, eh bien au verset 9, il est dit ceci, nous priâmes notre Dieu. Et ça c'est fondamental, c'est à genoux que se vit le combat de la foi et le combat spirituel. Il prie, alors j'ai souligné tout à l'heure, ceci au verset 9, ils prient et qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils établissent une garde. Je prie, je me confie en Dieu et je veille. Prier, veiller, c'est des choses qui vont ensemble. Je suis sur mes gardes. Il y a des choses qui m'incombent personnellement. Si parfait soit la victoire, si parfait était remporté ce combat au travers de, notamment du sacrifice de Jésus-Christ à la croix du calvaire et cette résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, je dois résister à l'ennemi. Il est important pour nous de réaliser encore ce matin que le soldat de Jésus-Christ, il reste sur ses gardes. Il reste sur ses gardes. Il se revêt de toutes les armes de Dieu. Alors ça, c'est le premier point. Je sais que nous le connaissons, mais j'avais envie de le repartager avec vous parce qu'il y a des combats et des luttes qui sont là dans notre vie. Et je dirais même plus, si nous nous engageons véritablement dans la voie du Seigneur, plus, j'allais dire, nous participerons à la construction de l'Église, plus nous serons impliqués, plus l'ennemi ne sera pas content, comme cela a été pour les enfants d'Israël quand ils ont rebâti la muraille. Il est écrit ceci, « Ils ont été très irrités au verset 7 en apprenant que la réparation des murs avançait. » Vous savez, l'ennemi de nos âmes, il ne se réjouit pas. Chaque fois que des victoires sont remportées dans nos vies, chaque fois que l'Assemblée fait un pas de plus vers lui, il est irrité. C'est des choses que nous devons connaître et savoir. Non pas, je ne suis pas venu pour vous faire peur, pour vous effrayer ce matin, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous le disons, parce que le deuxième point que je voudrais partager avec vous, nous devons être un soldat de Jésus-Christ qui est constamment sur ses gardes. Comment aussi, en se revêtant toutes les armes de Dieu, comme nous l'avons dit, mais aussi en étant attentif aux avertissements divins. Être attentif aux avertissements divins. Il y a une expression française du XVIIe siècle qui dit ceci. Alors au début, l'expression était ainsi. Un bon averti en vaut deux. Maintenant, on la connaît plus. Un homme averti en vaut deux. Ça signifie quoi? Que toute personne prévenue, elle reste sur ses gardes et elle devient redoutable pour ses ennemis. Le fait d'être prévenu d'un risque nous place dans une situation avantageuse. Pourquoi? Parce que nous redoublons de prudence. Je dirais, un chrétien averti, il en vaut deux. Et qu'est-ce que nous avons lu dans Néhémie au chapitre 4, verset 12? Les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. 10 fois. Et là, ça nous parle de la fidélité, de la patience de Dieu pour nous. Combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas prévenus en lisant sa parole, en écoutant la prédication des circonstances de notre vie? Combien de fois, par sa parole ou par des messages, Dieu ne nous a-t-il pas prévenus des dangers? Honnêtement, je fais une petite parenthèse, si un jour on se trouve devant Dieu, nul d'entre nous ne pourrait dire, quel que soit le chemin que nous avons pris ici-bas sur la terre, que nous n'avons pas été prévenus. J'aime parce que le Seigneur, vous savez, dans sa douceur, dans sa pédagogie, dans l'amour qu'il a pour nous, il nous dit les choses telles qu'elles sont. Il nous dit la vérité. Vous savez, un petit peu dans cette relation avec nos enfants, nous leur disons les choses. Et je crois que c'est important pour nous de prendre considération des avertissements. Ce n'est pas là pour nous effrayer, pour nous décourager. Je sais que parfois, c'est décourageant, c'est vrai. Mais c'est là pour que nous puissions continuer l'œuvre, que nous puissions continuer dans cette édification du corps de Christ en toute connaissance des dangers auxquels nous sommes confrontés. Le diable, il est rusé. Il est rusé. Nous l'avons lu tout à l'heure, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons être prudents. Il est écrit ceci, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes » dans Matthieu au chapitre 10 et verset 16. Pourquoi c'est important de tenir compte des avertissements? Eh bien parce que si nous tenons compte des avertissements divins, notre ennemi, il est démasqué et il ne peut nous nuire. Finalement, de tenir compte des avertissements dans nos vies, c'est déjà une victoire. Et on l'a lu au verset 15 dans Néhémie 4, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. » Oui, tenir compte dans nos vies des avertissements divins, c'est l'ennemi qui est démasqué, qui est dévoilé, ces ruses qui sont mises à nu devant tous. Vous savez, ils avaient comploté, ils avaient dit « voilà, on va y aller en pleine nuit, etc. etc. » Vous savez, le diable est très rusé. Vous vous rappelez quand Jésus lui-même est dans le désert, voyez comment, alors que Jésus a faim, toutes ses paroles, même le diable peut utiliser la parole de Dieu, comme il l'a fait dans cette tentation dans le désert auprès du Seigneur Jésus. Il est rusé, c'est la Bible qui nous le dit. Et je crois qu'il est important quand même, je fais une petite parenthèse, mais je veux le dire, il y a une chose qui est importante, c'est de bien identifier notre ennemi, pour pouvoir justement le démasquer. Il y a des personnes, il faut le dire, qui voient le diable partout. Ne nous trompons pas d'adversaire dans notre combat de la foi. Nous avons, ce n'est pas le sujet ce matin, mais je vais quand même vite fait vous le rappeler, nous avons trois principaux adversaires. Bien sûr, le diable dont nous avons déjà parlé, il est écrit ceci dans la parole de Dieu, « Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas distraire. » Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Je ne sais pas si vous imaginez l'image. Il est comme un lion rugissant. Rien que déjà avec le rugissement, il essaie de nous faire peur, de nous effrayer. Et il cherche quelqu'un qui pourra saisir, dévorer. Et il est écrit ceci, « Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » Je vous ai lu 1 Pierre chapitre 5 et le verset 8. Oui, un des trois ennemis principaux que nous avons, c'est bien sûr le diable, mais il y a aussi un autre ennemi, il ne faut pas se tromper, un autre ennemi, eh bien c'est nous. Eh oui. La Bible parle de notre chair, notre ancienne nature. Et il est écrit ceci dans la parole de Dieu, « Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Je l'ai lu dans la transcription « Parole vivante ». Nous le savons, la chair, elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Deuxième ennemi, nous-mêmes, en définitive. Et il y a aussi un autre ennemi, c'est le monde. Le monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes envoyés dans le monde. Et bien sûr que, d'une certaine manière, tout ce que je dis, il y a cette influence constante du diable, puisque c'est le prince de ce monde, c'est lui qui tire les ficelles. Mais c'est important quand même de bien comprendre un petit peu qui sont les véritables ennemis. Le monde, si vous faisiez partie du monde, a dit Jésus, si vous faisiez partie du monde, il serait plein d'amabilité pour vous. Car le monde, il aime ce qui est à lui. Mais voilà, vous n'appartenez plus au monde, puisqu'en vous choisissant, je vous ai retiré du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Le monde vous déteste. Jean 15, verset 19, toujours dans cette transcription, parole vivante. Dans la traduction Louis II, il est parlé de haine, mais c'est le même message. Il y a cet ennemi du monde dans lequel nous sommes placés. Nous devons être un soldat de Jésus-Christ, comme nous l'avons vu dans le livre de Néhémie, constamment sur ses gardes. Être constamment sur ses gardes. Alors j'ai parlé, oui, importance de revêtir toutes les armes de Dieu. Nous venons de voir qu'il était fondamental aussi d'être attentif aux avertissements divins comme déjà une prémisse de la victoire. Et je voudrais terminer par cette troisième partie. Comment être sur ses gardes? Eh bien, en travaillant et combattant. En même temps, nous avons vu que Néhémie, tout en priant, Et ça, c'est quelque chose qui est important quand même de reméditer, c'est que tout en priant, on dirait que voilà, ils établissent une garde, ils ont confiance, ils n'ont pas confiance, pas du tout. Nous avons nos propres responsabilités. Comme je le disais tout à l'heure, nous nous reposons en Dieu. Sans lui, finalement, nous ne pourrions rien faire, nous ne pourrions rien vivre. Nous nous appuyons sur la victoire complète et définitive de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Mais il n'empêche que nous avons besoin aussi de veiller. Nous l'avons lu tout à l'heure. Revêtez-vous, armez-vous. Enfin, toutes les injonctions de la parole de Dieu pour nous encourager, nous aussi, à combattre, à résister, même si le combat a été remporté. Et il est dit aussi ceci, on peut le regarder si vous avez toujours Néhémie chapitre 4 devant vos yeux. Il est dit au verset 17 ceci, « Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. » Et ça, c'est une. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle image pour nous. Au verset 21, il est dit que la moitié, c'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, et ils étaient à l'ouvrage. Là, il y a une pensée extraordinaire, et j'avais pas le temps de le partager avec vous, mais comme l'a rappelé un petit peu Nicolas tout à l'heure, l'importance que nous soyons ensemble. Moi, quand je lis ce chapitre, ce qui me réjouit, c'est ça. Vous savez, à un moment donné, ils étaient un peu dispersés, l'œuvre était considérable, ils vont s'unir ensemble. Mais quelle image, d'un côté je travaille, j'ai la truelle, et de l'autre main, j'ai ma lance, mon épée, voilà, je suis prêt. Et ça, je trouve que c'est une image extraordinaire pour nous, parce que comment rester sur nos gardes, c'est être conscient que nous devons être engagés dans l'œuvre du Seigneur, tout en étant sur nos gardes, constamment, comme si l'ennemi pouvait surgir à chaque instant. On va lire un texte, vous pouvez quitter Néhémie, on n'y reviendra pas si jamais je citerai, dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, première épître de Paul à Timothée au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 8, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Verset 10, nous travaillons, en effet, et, vous rappelez le « et » de tout à l'heure, nous travaillons et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Nous travaillons en effet et nous combattons. Il est certain que tout ce que nous partageons peut faire dire à certains et peut inspirer en tout cas un certain découragement. Il est certain que ces combats et ces luttes, et il suffit de voir la vie qu'a été celle de l'apôtre Paul pour voir que elles n'ont pas manqué, hein, ces luttes et ces combats dans sa vie. C'est sûr que cela pourrait nous décourager, et pour autant, il faut continuer l'œuvre jusqu'à la fin. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Oui, par la foi, jusqu'au bout. Oui, je sais qu'un jour mes yeux te verront si je tiens jusqu'au bout. Si je tiens jusqu'au bout. Nous devons prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Voilà. Nicolas le disait tout à l'heure, il énumérait quelques services où il y a des besoins. Je dirais que même ceux qui ne sont pas à la limite connus ou officiels, un petit peu installés dans nos églises, il y a de quoi faire pour tous. Vous savez, des fois, nous, on cible les chants, tac, bon, il y a quelqu'un qui prêche, voilà. Tout est pourvu ce matin. Les besoins sont immenses. Les besoins sont immenses. Les moissons sont grandes, il y a peu d'ouvriers. Et nous devons être interpellés chacun. Je ne suis pas venu ce matin pour vous décourager, mais pour vous avertir, pour vous encourager au contraire à continuer à travailler. Certains ont arrêté, les flèches de l'ennemi ont frappé à l'endroit où ça a été fatal pour eux. La parole de Dieu, elle est là. Combien de versets, mais Moi, j'avais que l'embarras du choix ce matin. Pour que nous résistions, pour que nous luttions et combattions. Il y a un chant des ailes de la foi, on le chantera peut-être une autre fois, qui dit ceci, « Travaillons et luttons. Nous sommes au Seigneur. Suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous. Avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. » Le refrain qui dit ceci, « Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. » Il y a une autre strophe qui dit ceci, « Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous, en avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons, oui, travaillons et luttons. » Comment le soldat de Jésus-Christ reste sur ses gardes? Eh bien, c'est en travaillant et en combattant. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, qui est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prince de ce monde, il veut la destruction de l'Église. Il veut l'anéantissement des chrétiens. Il veut détruire l'œuvre que le Seigneur veut que nous accomplissions pour lui. Il est important de servir et de lutter. Et je rajoute ceci, mais on va le lire ensemble dans Colossiens. Dans Colossiens. Au chapitre 1er. En Colossiens, chapitre 1er, on peut lire à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Verset 27, Colossiens chapitre 1er, verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Regardez le verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. Je travaille et je combats. Et je combats avec la force qui agit puissamment dans ma vie. Rappelons-nous que tout ce que j'ai pu vous encourager dans cette lutte et dans ce combat, c'est archi-dépendant du combat que Dieu a mené en Jésus-Christ. Rappelez-vous, c'est Dieu qui combat pour nous. Alors je voudrais conclure maintenant. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est souvent écrit ceci, à celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Et qui dit victoire parle forcément de lutte, de combat. Celui qui vaincra, c'est le chrétien qui est resté fidèle dans la foi jusqu'au bout, comme on l'a chanté tout à l'heure, et qui a surmonté ses combats et ses luttes par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul le dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Et je le redis dans cette conclusion, les efforts font partie intégrante de la vie chrétienne au même titre que je dirais la facilité avec laquelle nous bénéficions de la grâce de Dieu. Je sais qu'il y a une sorte de paradoxe qui est un peu complexe à premier abord, à devoir nous efforcer à acquérir ce que Dieu nous donne. Mais c'est une réalité de la parole de Dieu. On la retrouve d'ailleurs, cette sorte de paradoxe, dans cette parole de l'Éternel. Vous savez, au peuple d'Israël, avant qu'il rentre dans le pays de la promesse, il est écrit ceci, Dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Nécessité de conquérir ce que Dieu nous donne. Oui, les efforts font partie intégrante de la vie chrétienne. Dans tous les domaines de notre vie chrétienne, nous ne devons pas ménager nos efforts. Même pour le salut de notre âme. Il est dit ceci dans la parole de Dieu, « Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Philippiens chapitre 2 et verset 12. Jésus ne nous a rien caché de ses luttes et de ses combats. Comme je disais tout à l'heure, il nous a tout dit, tout a été dit. Et il est bon de les garder en mémoire. Un jour, à la question qu'on a posée au Seigneur, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Jésus a répondu ceci en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Faites tous vos efforts. Conquérir ce qu'il a acquis pour nous. Pas facile, hein ? Mais c'est la réalité de la parole de Dieu. Autant cette réalité de la victoire totale accomplie en Jésus-Christ à la croix du calvaire, autant cette réalité aussi pour nous de combattre et de lutter, de résister et de veiller. Je viens de vous lire Luc chapitre 13, verset 23. Le soldat de Christ, il reste sur ses gardes en se revêtant de toutes les armes de Dieu, comme nous l'avons dit, en étant attentif aux avertissements divins qui est en soi déjà une victoire, puisque l'ennemi est démasqué, et aussi en travaillant et combattant, truelle, épée dans l'autre main. Et c'est ainsi qu'à la fin de sa course ici-bas, le chrétien pourra dire comme l'apôtre Paul, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Voulons-nous, mes frères et sœurs, qu'aux derniers instants de notre vie, au moment où nous passerons de cette terre dans l'éternité, voulons-nous pouvoir dire, nous aussi, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Retenez bien ceci, je ne suis pas venu vous effrayer ou faire peur, mais juste avec la grâce du Seigneur, partager les avertissements nombreux de la parole de Dieu pour que nous puissions, tous les jours de notre vie, être sur nos gardes. L'ennemi est là. Mais le Seigneur, il est plus grand que lui. Celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est contre nous. Je vais vous inviter à vous lever, nous allons terminer ces moments. Il y a quelque chose. D'accord. Je prie, j'ai à cœur de prier avec vous. Et ensuite, je laisse quand même la place à Nicolas. Ne partez pas trop vite, Nicolas. Je l'avais dit, il avait oublié des choses encore. Éternel notre Dieu, nous sommes confondus chaque fois que nous méditons ta parole avec une ouverture de cœur et, comment dire, sans préjugés, Seigneur. C'est vrai que nous sommes dans un monde qui a une crainte qui grandit. Nous, à la fois nous sommes dans un pays de sécurité, mais nous voyons que la montée du terrorisme notamment crée cette crainte dans les cœurs. Et cela peut être légitime pour nous d'avoir certaines peurs dans notre vie. Mais ils ne peuvent atteindre que notre corps physique. Et nous savons que nous devons avoir plus peur de celui qui veut atteindre notre âme, de celui qui veut détruire l'œuvre des chrétiens, de celui qui veut anéantir l'Église, celui que tu as démasqué par ta parole. Seigneur, oui, tu nous le rappelles encore ce matin, que l'ennemi est là autour de nous, qu'il guette l'instant où peut-être par paresse, par oisiveté ou parce que nous avons laissé ta parole, parce que nous avons peut-être laissé l'ennemi nous enlever comme cette graine sur le long du chemin. Seigneur, quand nous partageons tout cela, quand nous voyons le peuple d'Israël, comment il avait à cœur cet ouvrage. Oui, nous voulons te le dire. Seigneur, nous avons à cœur ton œuvre. Mais nous nous sentons si petits, si faibles, que nous réclamons ensemble, moi le premier, avec tous mes frères et sœurs, l'onction de ton esprit sur nos vies. Seigneur, aide-nous dans ta grâce et que nous puissions prendre conscience les uns et les autres, oui, de notre propre responsabilité aussi. Seigneur, ces armes, nous avons besoin de nous en équiper. Seigneur, je te prie en cet instant que cette parole qui a été semée dans les cœurs, Seigneur, elle soit gardée, protégée, qu'elle porte du fruit et que tous ensemble, Seigneur, à la fin de la course, ici-bas sur la terre, oui, nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu ce bon combat avec la grâce que tu m'as donnée jour après jour. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole et nous louons ton Saint-Nom ensemble. Amen.